Nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Romains chapitre 8. Voici ce que l'apôtre dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et voici le verset qui fera l'objet de notre attention. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Voilà un passage important, un passage émouvant par lequel l'apôtre, lorsqu'il parle de la vie de l'esprit, nous présente deux situations de vie. Une vie selon la chair et une vie selon l'esprit. La vie selon la chair, nous la connaissons parce que c'est cette vie-là que nous menions avant que Christ vienne à notre rencontre. Une vie qui n'était pas plaisante. Une vie dans laquelle, au lieu que l'Esprit de Dieu contrôle nos pensées, conduise nos actions, c'était la chair qui prenait le dessus à cause du péché. Dieu ayant créé l'homme en tripartite, l'esprit, l'âme et le corps, voilà, c'était l'ordre avec lequel Dieu a créé l'homme. Mais à cause du péché, nous voyons la chair qui a pris le dessus et l'esprit était comme cautérisé, ne pouvant plus être en contact, en connexion avec Dieu le Père. Quelle tristesse! Oh, nous savons que l'homme qui a été fait par Dieu et pour Dieu ne peut pas vivre sans Dieu. Il a été fait par Dieu. Et il se doit que l'esprit de l'homme soit en communion avec l'esprit de Dieu pour recevoir ce que Dieu a pour ceux et celles qui lui appartiennent. Et il y a la vie de l'esprit. Cette vie de l'esprit qui nous a été rendue possible à cause de cette œuvre de Jésus à la croix. Cette vie qui nous a été rendue possible, non par nos propres œuvres, non par nos capacités, non par nos compétences, non par ce que nous sommes, mais à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Oui, nous l'avons chanté tout à l'heure, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. J'étais esclave du péché, mais il m'a libéré. Il m'a libéré de toute condamnation. Il m'a libéré de la puissance des ténèbres. Et Jésus, dans son amour, nous a rendus à la vie. À cause de cela même, il y a une transformation qui a été opérée en nous. Quelque chose que l'entendement humain ne peut comprendre. Quelque chose que les hommes encore aujourd'hui ont du mal à réaliser, qu'un homme parfait puisse mourir pour le salut de l'humanité tout entière. Et c'est la foi qui nous permet de saisir cette grâce que Dieu a pour les enfants. Le titre du message de ce matin, une première partie, c'est l'identité du croyant. Il y a un phénomène qui touche de plus en plus beaucoup de personnes dans notre société. Il arrive parfois que certains sont incertains de leur rôle dans la vie. Il arrive que certains ont le sentiment qu'ils ne se connaissent pas en réalité. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle une crise d'identité. Vous savez, ce terme a été inventé par le psychologue Erik Erikson, qui définit la crise d'identité comme étant l'incapacité de l'homme d'avoir une identité qui lui est propre. Les hommes essayent, tant bien que mal, de trouver des causes à cette crise d'identité. On essaye. Certains disent que ça commence par l'adolescence. Mais on voit la crise d'identité qui touche plusieurs couches, les ados, les jeunes, les moins jeunes. La crise d'identité touche tous les âges. Si les hommes essayent de trouver la cause, la parole de Dieu nous montre que dès le commencement, depuis la fondation du monde, le diable a semé le doute dans le cœur de l'homme en déclenchant une crise d'identité. Quand nous lisons la parole de Dieu, dès le commencement, nous voyons là le diable qui a semé le doute dans le cœur d'Adam et Ève pour les emporter dans sa chute. Dans Genèse au chapitre 3, verset 5, alors que Dieu avait donné un certain nombre de recommandations à l'homme au sujet du jardin d'Éden, Dieu avait montré à l'homme ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Mais c'était sans compter sur la ruse de celui qu'on appelle le menteur, le trompeur, celui qui était déjà dès le commencement auprès de Dieu, celui qui avait une autorité, parce que c'est Dieu qui avait délégué cette autorité, mais lui également ayant eu une crise d'identité, il a voulu, dans son orgueil, usurper la place de Dieu. Et à cause de cela même, Dieu l'a précipité, nous dit la parole de Dieu, et il est tombé du ciel. Et nous voyons dans sa ruse le diable qui essaye maintenant de séduire l'homme. Là où il a chuté, il a entraîné l'homme dans sa chute. Il est dit ceci au verset 5. Lorsque le diable s'adresse à l'homme et à la femme, mais Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Or, cette même parole nous dit dans Genèse au chapitre 1er, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Voilà l'identité que Dieu a donnée à l'homme dès le commencement. Il a donc doté l'homme d'une grande dignité. Quelle dignité Dieu a donnée à l'homme en le créant à son image, à sa ressemblance. Il a, en le donnant cette dignité, l'homme il est à part du reste de la création car il a été créé à l'image de Dieu et il a reçu une autorité divine, une autorité sur la nature. Être à l'image de Dieu, j'ouvre juste cette parenthèse. ça ne signifie pas que l'homme avait une ressemblance physique. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais certes, ayant été créé à l'image de Dieu, nous voyons que lorsque Dieu va insuffler dans les narines de l'homme le souffle de Dieu afin qu'il soit un être vivant, il faisait par voie de conséquence l'homme pour qu'il devienne aussi un être spirituel. Il est physique, certes. Mais il est aussi un être spirituel qui a un esprit immortel qui le rend capable d'aimer son Créateur et d'être en communion avec lui. C'est à cause de cet esprit-là, parce que l'homme est spirituel, qu'il peut être en communion avec Dieu par son esprit. Il est également un être moral doté d'une volonté propre. L'homme, Dieu lui a donné la capacité de choisir. Dieu a également donné à l'homme la capacité une conscience pour condamner ou approuver son comportement. Souvenons-nous, après sa désobéissance, qui est allé dire à Adam qu'il avait fait ce qui n'était pas bien? Qui lui a dit? C'est sa conscience. Dieu a doté l'homme d'une conscience. Il est certes un être spirituel. Il est certes un être moral doté d'une volonté propre. Il est également un être actif et responsable parce que c'est Dieu qui a placé l'homme dans le jardin pour qu'il soit en activité. Nous voyons donc que ce que Satan promettait à l'homme, il était déjà dès le commencement. Il dira à l'homme, Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu. Et pourtant, l'homme il a été créé à l'image de Dieu. Il avait des responsabilités, des capacités. Dites, en réalité, est-ce que l'homme, ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avait-il besoin d'essayer d'être comme Dieu? Avait-il besoin d'être comme Dieu? Il avait été tiré de Dieu. C'est fou quand même comment on peut se laisser piéger. Lui qui a été tiré de Dieu, il a été tiré de Dieu, il a été fait à l'image de Dieu. Comment voulait-il encore ressembler à Dieu de plus que ce que Dieu lui avait fait? Il était en intimité quotidienne avec Dieu. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on cherche de plus? Il avait ce bonheur d'être dans sa présence et de jouir de l'amour de Dieu. Quelle ébène! Mais ayant douté de son identité en Dieu, le problème, il est là. Ayant douté de son identité en Dieu, il a introduit le péché dans son cœur et par voie de conséquence dans l'humanité tout entière. Et encore aujourd'hui, l'humanité entière gît dans le péché. Mais nous voyons que, comme l'apôtre Paul dira aux Romains, si le péché est entré dans le monde par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, gloire soit rendue à Dieu, par l'obéissance d'un seul homme. Le second Adam nous dit la parole de Dieu au travers de son œuvre à la croix. Oui, la vie est entrée également dans le monde. J'aimerais que l'on puisse parler de ces quelques minutes qui sont devant nous, des privilèges de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et pour cela, il est important. On ne peut pas parler de la nouvelle identité sans nous rappeler de l'histoire de l'homme. L'apôtre dira, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Vous savez, Dieu avait arrêté dès la fondation du monde que malgré le péché, l'homme serait adopté par Jésus. Paul dira aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 5, quelque chose qui montre à quel point Dieu, dans sa préscience, avait tout anticipé. Il dira ceci, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés dans son amour. Et dans Galates au chapitre 4, versets 4 à 5, Paul dira ceci également. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Afin que nous recevions l'adoption. L'adoption, c'est l'acte par lequel un enfant devient membre d'une famille, en jouissant des mêmes privilèges que les enfants biologiques. C'est cet acte-là. Un enfant qui n'appartenait pas à une famille, mais c'est par amour que cette nouvelle famille l'accueille. Et c'est en Jésus que nous avons été introduits, comme Paul va le dire, dans cette nouvelle famille et dans cette nouvelle relation avec Dieu. Nous qui étions éloignés à cause du péché, nous qui, par le péché qui a creusé ce fossé entre Dieu et nous, nous étions incapables de franchir cette barrière. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, et vous, amis qui écoutez cette parole, c'est grave de croire que le péché n'est pas grave. C'est très grave, parce qu'il a occasionné des souffrances et il occasionne encore des souffrances terribles. L'éloignement d'avec Dieu, c'est une souffrance terrible. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. C'est impossible de vouloir vivre sans Dieu ayant été créé à l'image de Dieu. Ayant été sauvé par grâce, c'est en Jésus que nous avons cette nouvelle relation avec Dieu par son esprit, mais encore par cet acte, nous avons été détachés du monde, du péché, pour être réconciliés avec Dieu. Toujours en s'adressant aux Romains, Paul dira ceci, au chapitre 5, verset 10. Paul montre la transformation que Dieu a opérée en mettant en opposition notre ancienne identité due au péché à la nouvelle à cause de son amour. Il dira ceci, lorsque nous étions ennemis, vous savez, sur la terre, quand nous avons des ennemis, on n'est pas tranquille. Mais combien a plus forte raison? Paul dira, nous étions ennemis. Ennemis de qui? Ennemis de Dieu. Parce que nous avons désobéi, nous lui avons tourné le dos en ne faisant pas ce qu'il nous demandait de faire. Ça, c'était le lot de tous les hommes, de vous et moi, mais encore de ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas encore saisi la grâce de Dieu, qui, malheureusement, se constituent eux-mêmes ennemis de Dieu, alors que Dieu a ouvert le chemin pour faire entrer tous les hommes dans sa famille, afin qu'ils puissent vivre. Paul dira, nous étions ennemis de Dieu. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Par la mort de son fils, qui a tant souffert pour vous et moi, qui a été meurtri, brisé, rejeté par les hommes. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Vous savez, étant ses enfants, Dieu veille sur nous et il prend soin de nous. Il est bon de nous rappeler sans cesse, non pas pour nous culpabiliser, mais combien c'est toujours bon pour l'enfant de Dieu sauvé par grâce de toujours se rappeler d'où le Seigneur l'a tiré. Pourquoi cela? Parce que ça nous permet d'avoir les pieds sur terre et de ne pas nous vanter de quoi que ce soit. Parce que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu par sa grâce. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui par moi-même, mais à cause de l'amour de Dieu manifesté à la croix afin que Jésus meure pour vous et moi. À cause de cela même, qu'est-ce que j'ai à m'enorgueillir en croyant que je suis arrivé par moi-même? Ça, c'est une insulte à l'œuvre de Dieu. C'est outrager, c'est mépriser la grâce si nous croyons ainsi. Il est un bon père de digne de confiance. Quels sont ces bienfaits de notre identité en Jésus? D'esclaves, nous sommes devenus enfants de Dieu. D'esclaves. Aujourd'hui, même si l'esclavage a été aboli, il y a bien des années en arrière, nous voyons malheureusement que dans certaines régions du monde, il existe encore ce type d'esclavage où des hommes sont soumis, des hommes sont forcés de vivre leur vie aux dépens des autres. Mais il n'y a pas que ce type d'esclavage. Il y a d'autres types d'esclavage qui sont sournois. Vous savez, quand on voit à la télé, Paul dira, il s'adresse aux chrétiens, il dira, voilà, celui qui se livre à quelqu'un, il est esclave. Il est esclave. Quand on n'a plus le droit de vivre notre vie, en la vivant aux dépens des autres, nous sommes esclaves de cette personne. Mais malheureusement, il y a d'autres types d'esclavage que nous voyons dans notre société. Certains diront, je ne suis pas physiquement soumis à quelqu'un, mais nous sommes, malheureusement, ils sont soumis à des choses terribles qui les empêchent de vivre heureux et épanouis sur la terre. D'esclaves, nous sommes devenus enfants de Dieu. Regardons un peu ce tableau-là. La saisir, quand on voit un esclave, on considère la vie d'un esclave. L'esclave n'a pas de perspective dans la vie. Il n'a pas de perspective. Parce qu'il ne vit que pour satisfaire son maître. Il ne se projette pas dans l'avenir, un esclave. Parce que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, appartient à son maître. Donc pourquoi se projeter alors que rien ne lui appartient? Sachant que tout va lui être réclamé. Mais nous nous rendons compte qu'au travers de ce que Jésus a accompli à la croix, nous qui étions voués à la perdition, n'ayant pas de perspective de vie, ne pouvant pas nous projeter parce que le péché nous empêchait, Jésus, par sa grâce, nous a libérés, nous a dégagés de la condamnation du péché. Et à cause de cela même, saisissant ce privilège et cette grâce d'être enfant de Dieu, cela nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension de vie avec Dieu. De quelle dimension s'agit-il ? De quelle dimension s'agit-il ? Il est question de voir ce que Dieu est. Vous savez, parfois on dit tel père, tel fils, en bien ou en mal. Tel père, tel fils. Mais le fait de voir que je suis identifié à Jésus, le fait de voir que j'ai été transformé, il y a eu une œuvre en moi que même aujourd'hui, humainement, on a du mal à croire, à comprendre, mais que l'on accepte uniquement par la foi, de dire « J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé par sa grâce. » Et à cause de cela même, je vois que ce qui était impossible à moi, Dieu l'a rendu possible. Parce que tout pouvoir lui appartient. Et cette nouvelle dimension de vie dans laquelle ma nouvelle identité m'amène à saisir, c'est le fait de dire et de comprendre que voilà, ça m'ouvre une dimension de vie avec Dieu, laquelle la dimension de l'impossible, car Dieu, nous découvrons dans la parole de Dieu qu'il est le Dieu de l'impossible. Jésus lui-même dira dans Luc au chapitre 1er, verset 37, « Il n'y a rien d'impossible à Dieu ». Rien d'impossible. Absolument rien. Vous savez, par la foi, ma nouvelle identité, notre nouvelle identité, nous porte à voir comme Dieu voit. Aujourd'hui, quand nous regardons les circonstances qui nous environnent, on peut se dire, tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et rien qu'il y a 2 jours, j'ai fait une visite. Et pendant la discussion, la conversation, la personne est venue, alors que l'on discutait de tout ce qui se passe aujourd'hui, la phrase qui est sortie, c'est « Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront ?» Je ne puis m'empêcher de dire, vous savez, j'ai des enfants aussi, je peux comprendre votre inquiétude. Parce que les choses ne vont pas en s'arrangeant, malheureusement. Mais qu'est-ce que Paul va nous dire dans sa parole, dans la parole de Dieu ? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est important, ça, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude pour que nous soyons dans la crainte. Il nous a donné un esprit de force et de puissance. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même esprit vit en nous. Ce même esprit nous donne de pouvoir réaliser que même si les circonstances nous semblent impossibles, même si tout semble fini aux yeux des hommes, l'enfant de Dieu sait que son père n'a pas dit son dernier mot. Vous voyez, c'est cette dimension de vie à laquelle nous devons tous y entrer pour ne pas nous laisser sombrer dans la défaite, dans l'inquiétude, dans la crainte. Parce que la crainte, c'est ce qui nous animait lorsque nous étions dans le péché. L'esclave, il est toujours dans la crainte. L'esclave, il est toujours dans la crainte. Mais Paul dira, Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude pour que nous soyons dans la crainte. Il dira, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous savons que nous sommes en communion avec Dieu le Père, celui qui a la maîtrise parfaite des circonstances et des temps. À cause de cela même, je n'ai pas à m'inquiéter. Et c'est là que la personne me dit, ah, vous avez raison. Je dis, ce n'est pas moi qui ai raison, c'est la parole de Dieu qui a raison. Je ne veux pas avoir raison, moi. La raison, c'est Dieu qui l'a toujours par sa parole. Vous savez, la crise d'identité, elle empêche le croyant de savoir où il est quand il traverse les situations difficiles. Elle paralyse, elle nous paralyse dans notre marche avec le Seigneur. Elle nous paralyse. Vous savez, quand on est paralysé, on ne peut rien, on peut plus rien, on peut même pas bouger. Vous êtes-vous déjà arrivé d'être dans une situation d'être paralysé? On ne sent même plus nos membres. Et c'est ce qu'elle fait, la crise d'identité, parce que quand je ne sais plus qui je suis, ça m'empêche d'avancer. Et pourtant, nous, on l'a chanté, « En toi, je sais qui je suis. Parce que tu m'as libéré, ma dette a été payée, je suis enfant de Dieu. » Vous savez, nous pouvons trouver cette crise d'identité dans la parole de Dieu. Et j'aimerais juste prendre un exemple. Un exemple. Dans Luc au chapitre 15, vous savez, on parle toujours de la parabole du fils prodigue. Vous avez entendu des prédications sur le fils prodigue, n'est-ce pas? Ah, peut-être des centaines de fois. On parle du fils prodigue. On parle de, et c'est louable de voir ce qu'il a fait. Lui aussi, il était à un moment donné dans une crise d'identité. Mais celle dont je veux parler, ce n'est pas celui du fils prodigue, mais de son frère. De son frère aîné. La parole de Dieu nous dit, lorsque lui étant dans les champs, quand il rentre dans la maison, il voit quelque chose qui se passe. Il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Il appelle un serviteur. Hey, viens ici, viens là, viens là. Viens ici, dis-moi ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe ici? On lui fait comprendre que son frère est revenu. Son frère qui était parti pendant des années, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Il est revenu, il aurait dû être heureux. Il aurait dû se réjouir comme l'a fait le père quand il a vu son fils de loin. Cela montre l'état de cœur du père qui s'attend toujours à ce que celui qui est perdu revienne. Le père, il nous a dit, il a vu son fils de loin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Mais sachant ce que son fils l'avait fait, il va courir, il va le saisir, il va l'embrasser. Il va dire, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu a été retrouvé. Mais regardons ensemble ce que le fils aîné va faire. Dans Luc au chapitre 15, cette crise d'identité qui parfois touche des chrétiens dans nos assemblées. Et c'est terrible. Cela nous dit ceci au verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique. C'était la réjouissance et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Ah, il va se réjouir. Ah, il se réjouit, mon fils est revenu. Celui qui était perdu a été retrouvé. Non, non, Il dit, il se mit en colère. Vous ne vous mettez jamais en colère. Hein. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit, voyons cette crise d'identité. Lui-même, il le dira. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Quelle misère! Quelle misère! Malheureusement, bon nombre de chrétiens sont dans cet état de cœur. Alors qu'ils ont été dégagés de la condamnation du péché, alors qu'ils ont été dégagés de cette situation de servitude, oui, nous servons Dieu parce que, ayant été sauvés, nous sommes sauvés pour servir. Mais ce n'est pas la même servitude. C'est un service qui honore Dieu. Là, il dit, il y a tant d'années que je te sers, disant, il y a tant d'années que je suis ton esclave. Mais non. Tu parles à ton père. Tu t'adresses à ton père. Comment peux-tu être esclave de ton père? C'est lui qui s'est mis ça dans la tête. Il dira ceci. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ouh. Je ne sais pas comment il a fait, hein. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a fait en tant qu'enfant pour ne pas désobéir à son père même une fois. Ah là là, j'aurais aimé ça de mes enfants. Hein. Il dira ceci, voilà, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un veau gras pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous savez, l'esclave, il n'ira jamais dans le troupeau prendre quelque chose pour tuer lui-même. Ah, s'il le fait. Ah. Mais son père va lui rappeler. Puisqu'il avait cette crise d'identité, son père le ramène à la raison. Et parfois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Ayant goûté à l'amour de Dieu, on est là toujours comme des esclaves, comme des mendiants. Lui, il se met dans une situation de mendiant. C'est comme s'il suppliait son père de lui donner quelque chose. Mais rappelons-nous, parce que nous avons été adoptés, nous jouissons des mêmes privilèges que les enfants biologiques. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce, mais lui, il ne jouissait pas de ça. Et il dira ceci. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, il dit ton fils, même pas mon frère, ton fils, voilà. Quand c'est pas bon, c'est ton fils. C'est ce que je dis parfois avec mon épouse. Quand les enfants font quelque chose qui ne sont pas bon, va, voilà, c'est ta fille là, c'est ta fille. C'est pas ma fille, c'est ta fille. Ton fils là-bas, ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais je bénis Dieu, vous savez, même si parfois nous perdons la raison, Dieu nous ramène à la raison. Le Père lui dira, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Cette relation n'est pas perdue. C'est toi qui t'es mis à l'écart. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et ça, ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Il dira ceci, tout ce que j'ai est à toi. Parfois, on est là, la tête baissée, courbée. Seigneur, comme des pauvres, comme des misérables. C'est comme si on suppliait Dieu. Pourtant, Dieu nous dit, tout ce que j'ai est à toi. Je suis ton père, tu es mon enfant. Je t'ai adopté et tu jouis des mêmes privilèges. Mon fils, ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, il le rappelle, ton frère, c'est pas mon fils, ton frère aussi. Ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé. Amen. Vous savez, celui qui sait qui il est en Jésus, il a un regard de foi. Et il ne se laisse pas, le doute le paralyser. Il a le regard de celui qui veut voir la puissance de son Père à l'œuvre. Frères et sœurs, voulons-nous voir la puissance de notre Dieu à l'œuvre ? Dans un monde qui est perdu, dans un monde qui est à la recherche d'identité, voulons-nous être de ceux et celles qui vont dire « Oui, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous avons, nous voulons le communiquer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. » Malgré la réalité de la vie, le Seigneur veut agir par sa puissance. Ce qui fait la différence, ce qui fait la différence entre les chrétiens, même si nous avons tous été sauvés par grâce, nous sommes tous aimés d'un même amour. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Mais ce qui fait la différence, même au milieu de nous ce matin, c'est le fait de saisir par la foi que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Quelqu'un au milieu de nous est en crise d'identité. Tu es en crise d'identité. Parce que tu vis comme ce fils-là, ce frère aîné. Tu es là. Toujours tu vas te plaindre. Toujours, tu vas te plaindre. Quel que soit ce que ton père fait, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a à nous plaindre auprès de notre père? Alors que nous savons que c'est de lui que nous tirons notre vie. Ce qui fait la différence, c'est le fait de s'imprégner de cette réalité qu'au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, son sang qui nous a purifiés pour nous dégager de la condamnation, ce sang, le sang de Jésus qui nous a purifiés de tout péché, ce sang coule dans nos veines. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que le sang de Jésus nous a purifiés, certes, mais il coule dans nos veines. Vous savez, quand un enfant, c'est pas le sang du voisin qui coule dans ses veines. Hein. Ah, c'est un problème alors si c'est le sang du voisin. Non, c'est le sang de son père. Et nous qui sommes enfants de Dieu, de quel sang voulons-nous? Si ce n'est le sang de celui qui nous a sauvés. Malheureusement, trop de chrétiens ne s'imprègnent pas de cette réalité. Et se laisse parfois séduire. Adam et Ève ont été séduits par le diable. Alors qu'au départ, il y avait une identité réelle. Aujourd'hui, tu te laisses séduire. Pourquoi accepter que le diable nous dise qui nous sommes? Pourquoi accepter que les circonstances nous disent qui nous sommes? Pourquoi accepter que nos voisins nous disent qui nous sommes? Non. Vous savez, quand on vit comme cela, nous passons à côté de la volonté de Dieu. La question que j'aimerais que l'on se pose, réellement, et je termine avec ceci, qu'exprimons-nous lorsque le monde nous regarde? Sommes-nous en train de montrer aux hommes qui nous sommes en réalité. Et ce, au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Où nous laissons ces mêmes personnes-là dire qui nous sommes au regard de la manière dont nous vivons. Au regard de notre attitude face aux circonstances. Parce que c'est devant les circonstances que se révèle réellement notre propre appréhension de qui nous sommes. Frères et sœurs, ce matin, ne nous laissons pas abattre. L'apôtre Jean dira ceci dans 1 Jean au chapitre 4. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, il est plus grand. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois la situation, les circonstances plus grandes. Et cela te dépasse. Mais j'aimerais t'encourager à regarder avec les yeux de la foi, t'attendant à ce que la puissance de ton Père se manifeste. Il est Dieu, certes, mais il est ton Père. Il est ton Père et il t'aime de tout son cœur. Et il voudrait que tu aies ce regard de foi. Pas un regard de doute, pas un regard de culpabilité, mais un regard de foi, s'attendant à ce que sa puissance se manifeste. Vous savez, quand on a compris que nous devons nous approprier cette identité, une telle attitude se ressentira dans la vie de tous les jours, dans nos choix, dans nos décisions, devant les circonstances. Ça saura que nous nous sommes appropriés. Le fait que nous ne sommes pas simplement un citoyen lambda, mais nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu très haut, de celui qui a traversé le ciel et la terre et qui par sa puissance nous a arrachés des ténèbres pour faire de nous ses enfants. Malheureusement, certains sont dans cette crise d'identité, parce que par leur attitude, par leur façon de vivre, ils attristent le Saint-Esprit de Dieu. Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si nous attristons le Saint-Esprit, comment voulons-nous qu'il rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Comment voulons-nous qu'il nous rende témoignage? Vous savez, j'aime ce que Paul dit aux Galates. La vie selon l'esprit. Il leur parle de la vie selon l'esprit en disant, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit. Vous savez, c'est pas une option pour l'enfant de Dieu, pour celui qui a été sauvé par grâce, pour celui qui a été arraché de la puissance des ténèbres, qui autrefois était ennemi de Dieu, qui autrefois se laissait conduire par sa chair. Ce n'est pas une option parce que nous avons été arrachés. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris possession de nos vies. Vivre par l'Esprit, c'est primordial. C'est ça qui nous permet de connaître la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ne nous sous-estimons pas. Ce n'est pas une question de faire comme si on a tout par nous-mêmes, mais c'est réaliser la grâce de Dieu sur nos vies. Ne nous sous-estimons pas. Et ne sous-estimons pas ce que Dieu veut faire en nous et par nous. Ne laissons pas le doute nous paralyser. Si tu es dans cette crise d'identité, vite, mets-toi à genoux devant Dieu. Demande-lui de rappeler à ton esprit qui tu es et qui il est pour toi. Paul dira, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Ne laissons pas le doute nous décourager, nous paralyser. Ayant saisi cette identité, même si les hommes ne nous croient pas, peu importe. Peu importe. Tu sais qui tu es en Jésus. Et parce que tu connais ta véritable identité, tu persévères quelles que soient les circonstances. Tu sais que ton Père, qui t'a tant aimé, celui qui a étendu sa main pour t'arracher des ténèbres, celui qui t'a sauvé par grâce, comment crois-tu qu'il t'a sauvé pour te laisser livrer à toi-même? Non! Tu sais qui tu es et quelles que soient les circonstances, aie foi que ton Père est toujours là et qu'il s'occupera de toi. Simplement, il voudrait que tu sortes de cette situation et que tu te rappelles à ton cœur. Le fils prodigue, quand il va tout lapider, il était dans la crise et il va se rappeler. Il est dit, il est entré, étant entré en lui-même, il s'est rappelé que dans la maison de son père, même les serviteurs vivaient mieux que lui. Et il est dit, il va se lever en disant, je vais retourner vers mon père. Retourne aujourd'hui vers ton père. Retourne vers ton père. Ne reste pas dans ta situation. Ne reste pas dans ton désespoir. Ne reste pas dans ton doute. Ne reste pas dans cette paralysie qui t'empêche d'avancer. Il dira, il va se lever. Il va aller voir son père. Il alla vers son père et comme il était au loin, lui, il va dire, j'ai péché contre toi ce matin. Ce qui t'empêche réellement de savoir qui tu es, c'est peut-être la situation dans laquelle tu es. Tu es dans une situation qui ne glorifie pas Dieu. Il dira à son père, il va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Humilie-toi devant Dieu et lui t'élèvera. Ce matin, quand tes pensées te tourmentent, quand le diable vient te persécuter, rappelle-lui qui tu es et le sort qui lui est réservé. Rappelle-lui qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Et ne vis pas comme n'importe qui. C'est ce que nous verrons prochainement. Même s'il y a des privilèges d'être enfant de Dieu, il y a aussi des responsabilités et des devoirs. Mais déjà que Dieu nous aide à nous approprier cette identité, et quelles que soient les circonstances, ayons cette identité comme un miroir devant nous, en nous disant, je suis ce que je suis au regard de ce que Jésus a fait. Et à cause de cela même, Seigneur, je marche victorieux, triomphant, par la foi, ne me laissant pas abattre. Seigneur, je persévère jusqu'au bout parce que tu dis dans ta parole que celui qui persévérera, c'est celui-là même qui sera sauvé. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton amour si merveilleux. Merci encore parce que tu nous fais comprendre à quel point, Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies, comme un enfant a besoin de son père. Merci de nous rappeler à notre esprit qui nous sommes, Seigneur, parce que tu as accompli une œuvre. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Ne permets pas que cette crise s'installe Mais vite, Seigneur mon Dieu, amène-nous par ton esprit à fléchir le genou devant toi. Parce que ta parole déclare que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, je bénis ton nom. Bénis ton peuple. Vraiment, Seigneur, tout au long de cette semaine, que cette parole revienne à notre esprit. Seigneur, mon Dieu, bénis chacun. Tout au long de cette semaine, que nous puissions nous rappeler qui nous sommes en toi. Et Seigneur, et devant les circonstances, peut-être que tu nous permettras d'être dans une circonstance pour nous rappeler à notre esprit qui nous sommes en toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous ne marchions pas dans la défaite, mais que nous puissions lever la tête et croiser le regard de celui qui nous aime et de celui qui reviendra nous chercher, afin que nous puissions être avec lui dans son ciel de gloire. Amen. Que Dieu soit béni.